BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 8e circonscription des Yvelines viennent répondre à nos questions. Nous accueillons aujourd'hui Jack Lefebvre, candidat du Parti ouvrier indépendant démocratique. Jack Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 67 ans, vous êtes enseignant retraité. Vous êtes candidat donc avec comme suppléante Juliette André. Première question, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ?
Eh bien parce que la situation est particulièrement difficile en ce moment avec la guerre qui se déroule en Ukraine, avec l'augmentation des budgets de l'armée, avec la grande inquiétude qu'il y a parmi la population et avec une politique qui est suivie aujourd'hui par le gouvernement en place qui pénalise tout particulièrement les milieux les moins favorisés, le peuple travailleur. Je pense qu'il faut aujourd'hui un changement complet de politique, un changement complet de gouvernement pour répondre aux immenses défis qui existent aujourd'hui.
Alors justement, on parle du gouvernement et de l'État. Que pensez-vous de la réélection d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles ?
Monsieur Macron a été réélu dans des conditions très particulières où il est de nouveau opposé à une candidate d'extrême droite et où très franchement des millions d'électeurs n'ont pas pu exprimer clairement leur choix. C'est un peu une élection par défaut. Il faut se rappeler que Emmanuel Macron n'a rassemblé que 28% des voix au premier tour, ce qui fait à peu près 20% des électeurs. C'est très faible. Ce gouvernement, en fait, est illégitime, il est minoritaire dans le pays, et bien évidemment, nous combattons ce gouvernement, nous sommes pour le rejet du gouvernement Macron et pour la désignation d'un gouvernement du peuple travailleur qui répond aux besoins de la population aujourd'hui.
Avant de parler de votre programme en détail, plusieurs questions globales concernant les Français. Que pourriez-vous faire d'abord pour améliorer le pouvoir d'achat ?
Écoutez, il s'agit tout simplement de faire deux choses. La première chose, c'est le blocage des prix. C'est quelque chose qui ne se fait plus en France depuis des années, qui s'est pratiqué pendant des dizaines d'années, et avec la politique de déréglementation qui remonte maintenant à une trentaine d'années, c'est quelque chose qui est abandonné. Il faut revenir à un blocage des prix de certains produits. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment l'augmentation des salaires. Moi, je suis étonné d'entendre un ministre et même un président dire on va faire un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Ça ne relève pas de la loi. L'augmentation des salaires, par exemple, de la fonction publique, relève simplement de la responsabilité du ministre qui signe un arrêté ministériel. Quand on constate que l'inflation atteint le niveau de 5,2% pour l'année, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout de suite une première mesure signée par le ministre, par exemple, de la fonction publique, augmentant immédiatement le salaire des fonctionnaires de 5%. Et ce serait un excellent signal pour l'ensemble des entreprises pour parvenir à un même niveau. Il s'agit aujourd'hui d'éviter un effondrement du pouvoir d'achat et un effondrement de la consommation des ménages. La revue 60 millions de consommateurs vient de sortir une étude disant que aujourd'hui des millions de familles sont en train de restreindre non seulement le budget déplacement, non seulement le budget vêtements, mais le budget alimentation, en faisant attention maintenant à ce que l'on mange, où on mange de moins en moins de viande, parce que le pouvoir d'achat a énormément diminué. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'abord l'augmentation des salaires.
Et puis, que pensez-vous de la réforme des retraites à 65 ans ?
Écoutez, c'est une réforme qui ne s'impose pas et qui, au contraire, va générer beaucoup, beaucoup de souffrance dans la population. C'est une réforme qui s'impose pas parce que les comptes des organismes de retraite ne sont pas dans la difficulté qu'on veut dépeindre. Et le gouvernement a bien spécifié hier qu'il s'agit en fait avec cette réforme de retraite de pouvoir financer ce qu'on appelle l'autonomie des personnes les plus âgées. Et donc, en fait, on veut faire une réforme de retraite pour toucher des milliards de la part du gouvernement, pour économiser des milliards et les dépenser à autre chose. Alors on dit évidemment que ces milliards économisés sur les retraites vont servir à des dépenses sociales, mais je vois arriver une augmentation du budget de l'armée. Et je pense que il y aura un détournement de ces milliards économisés sur le dos des retraités pour faire tout à fait autre chose que ce qui répond aux besoins de la population. Et enfin, la date de 65 ans, le recul de plus de 2 ans de l'âge de départ en retraite, c'est une mesure qui va toucher la santé de tous les Français. Et il y aura des morts. Plus, évidemment, on allonge la durée de travail, surtout dans ces années-là, après 60 ans, plus, évidemment, la santé des Français sera attaquée.
Une question précise à présent sur l'actualité locale. Il y a un projet de maison d'arrêt à Magnanville. Est-ce que vous êtes pour ou contre la construction de cette prison dans la commune ?
J'y suis contre. Je suis opposé à cette mesure. D'abord parce qu'on est en train de développer aujourd'hui l'incarcération en France. Le nombre de détenus dépasse maintenant les 70 000. Alors que ce n'est pas, à mon avis, la solution au problème.
Nous allons à présent parler de votre programme en détail, en commençant par le logement. Qu'attendez-vous du gouvernement sur ce sujet ?
Bien, le gouvernement, il est à la suite des autres en train de mettre en cause le logement social. On construit pas suffisamment de logements sociaux aujourd'hui. Il y a pour toute famille qui dépose une demande de HLM ou de logement des files d'attente extraordinaires de mois ou voire d'années. C'est plutôt une logique de destruction des logements sociaux qu'on assiste dans toutes les banlieues aujourd'hui. Et il faut répondre aux besoins de la population. La population augmente, tout naturellement. Il faut construire des logements, y compris des logements sociaux. Il faut réhabiliter des logements qui ont souvent été laissés à l'abandon et réhabiliter pour les habitants. Moi, je vois l'opération de rénovation du quartier de la Croix-Ferrée, qui est en cours. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait partir les locataires actuels pour rénover les logements. Mais quand les logements vont être rénovés, à qui vont-ils être attribués ? J'ai bien peur qu'on assiste à un changement de population et que ceux qui ont dû partir ne puissent jamais revenir et que ce soit un autre type de population plus aisée qui pourra payer des loyers plus élevés qu'on va évidemment accueillir dans ce quartier.
Et vous souhaitez également que le gouvernement bloque les loyers ? Vous pensez que c'est viable pour les propriétaires ?
C'est tout à fait viable en prenant en compte plusieurs choses. Bon, là, il s'agit d'une mesure générale et on parle bien des loyers, par exemple, des logements sociaux, des appartements qui appartiennent à des grands groupes privés. Contre propriétaires individuels, il y a toute une série de dispositifs qui peuvent être mis en place pour accompagner cette mesure.
On parle maintenant de l'éducation. Vous voulez que l'État recrute des enseignants pour tous les élèves. Alors comment faire aussi pour qu'il y ait plus de candidats pour ces postes ?
Alors, on est en train d'assister à une catastrophe programmée. On va se retrouver au mois de septembre avec des écoles sans enseignants, de la même façon qu'on va dans une situation, grâce à la politique de Macron, où on va avoir des hôpitaux sans infirmières. Le vivier de recrutement existe. Il y a 2 millions d'étudiants. Il y a l'expérience que vient de faire la rectrice de Versailles, qui vient de lancer une opération de job dating pour recruter des jeunes. Les jeunes se présentent. Le problème, c'est quoi ? C'est on va les mettre sur le terrain tout de suite, sans formation. Le problème, c'est dans quelles conditions vont-ils travailler ? Et je crois que on est en train, à la suite de la réforme du lycée et de la réforme du baccalauréat, préparer une dégradation très sensible de l'enseignement. On parle beaucoup des mathématiques, par exemple. Il faut savoir que la réforme Blanquer était la première réforme qui faisait que des élèves pouvaient très bien ne plus faire de mathématiques après la classe de seconde. Résultat, effectivement, on n'a pas recruté de professeurs de mathématiques depuis des années. Et même, on a licencié les contractuels qui existaient. Je crois que maintenant on parle de refaire revenir quelques heures de mathématiques dans le tronc commun. Il faut recruter massivement des enseignants. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Oui, on peut recruter des personnels immédiatement avec un contrat d'embauche, dans la perspective évidemment de la titularisation le plus rapidement possible de ces personnels pour qu'ils aient des conditions de travail pérennes, capable effectivement de sortir l'éducation dans une situation très compliquée.
On reste dans le thème de l'éducation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, à modifier concernant l'accompagnement des élèves, notamment ceux qui sont en difficulté?
Bien sûr. Écoutez, la première chose, c'est la question des effectifs. Le nombre d'élèves par classe augmente continuellement. Ça, c'est le résultat de la politique de M. Macron. Et il faut se rappeler qu'il y a d'autres pays d'Europe qui ont une politique complètement différente. Il faut rappeler l'exemple de la Finlande. En Finlande, les élèves sont dans des classes de 12 ou de 13 élèves toute leur vie scolaire. Je dis bien toute leur vie scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée. Et on connaît les résultats sur lesquels ça débouche en termes de réussite scolaire pour les enfants. En France, on a choisi d'entasser les élèves en lycée dans des classes à plus de 30 élèves, 35, 36, 37 élèves dans les classes de terminale. Et je pense que c'est la première disposition qu'il faut mettre en place pour effectivement aider tous les élèves à réussir. Et j'ajouterai une deuxième question, les élèves handicapés. C'est toujours très difficile et douloureux pour une famille d'éduquer un enfant en situation de handicap. Le gouvernement a décidé d'aider ses élèves à moindre coût. Il y a aujourd'hui une catégorie de personnel qu'on appelle les AESH, les aides pour les élèves en situation de handicap, qui sont 200 000 en France et qui sont dans des conditions de vie absolument innommables. La plupart de ces 200 000 AESH sont rémunérés en dessous du SMIC, à 600, 800 euros par mois, parce qu'on les oblige à faire un temps partiel. Ils ne font pas 35 heures par semaine, un temps partiel imposé. Et c'est des familles qui vivent dans le dénuement le plus incroyable et qui montrent bien le mépris avec lequel ce gouvernement traite à la fois les enfants handicapés et les personnels chargés de s'en occuper.
Passons à présent au thème de l'économie. Vous êtes pour le maintien des emplois en général, mais et aussi surtout à Renault-Flins. Selon vous, quelle stratégie pourrait adopter le gouvernement pour maintenir tous ces emplois?
Écoutez, des milliards ont été dépensés. Depuis le début du confinement, le mois de mars 2020, des plans successifs ont donné la somme pharaonique de 607 milliards aux entreprises. Bien. Renault, par exemple, a touché 5 milliards de la part de l'État. Moi, ce qui m'étonne, c'est que lorsque le premier paquet de ces 600 milliards a été voté en mars 2020, la totalité des groupes représentés à l'Assemblée nationale ont voté ce dispositif. Et je dis bien la totalité des groupes parlementaires, y compris les non inscrits membres du Rassemblement national et le groupe des parlementaires des Insoumis. Or, ces 607 milliards donnés aux entreprises ne se sont assortis d'aucune contrepartie. Renault à la fois a touché des milliards et Renault a le droit, bien qu'il touche des milliards de la part de l'État, de procéder à des suppressions d'emplois. À des suppressions d'emplois au technocentre de Guyancourt qui est durement touché par un plan de restructuration générale et de délocalisation de la recherche-développement dans d'autres pays. Et Renault-Flins, où effectivement le nombre d'emplois diminue de façon drastique. Il y a eu 600 intérimaires qui ont été remerciés le 23 décembre 2021. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe l'après-midi qui travaille sur la peinture et le montage des voitures. On programme l'arrêt de fabrication d'automobiles à Flins en 2023, peut-être même encore plus tôt. La voiture électrique Zoé va être envoyée dans le nord aux usines de Douai et environnantes. Bon, on est en train de préparer la disparition de l'usine. Et je ne me satisfais pas du tout du fait qu'on parle d'un projet de nouvelle forme d'économie circulaire où une usine aurait pour fonction de rénover des voitures d'occasion afin de les remettre en vente. Bon, qu'on ne me fasse pas croire que on peut employer 4000 ouvriers à Renault-Flins à retaper des voitures usagées. Ce n'est pas vrai. On est en train de préparer un plan social dramatique, peut-être la fermeture de l'usine comme usine de montage, et donc il resterait un peu quelque chose du côté de la tonnerie, de la tôlerie et de l'emboutissage. Ce n'est pas comme ça, encore une fois, qu'on donne du travail à des milliers d'ouvriers. Si l'usine de Flins n'existe plus comme usine d'automobile d'ici un délai très bref de 1 an ou de 18 mois, mais qu'est-ce que vont devenir les cités ouvrières de la Vallée de la Seine?
Vous avez parlé des 607 milliards d'euros versés aux entreprises. Votre objectif, c'est de les réquisitionner pour s'en servir pour les services publics, notamment.
Absolument. Un gouvernement au service du peuple travailleur réquisitionnerait ces milliards donnés au patron et permettrait évidemment de faire toutes sortes de choses. Bon, recruter 200 000 personnels soignants, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliards d'euros. Recruter 100 000 enseignants, c'est de l'ordre de moins d'une dizaine de milliards d'euros. Je crois que mettre côte à côte ces deux chiffres permet de dire que quand on voit l'argent qui est dépensé, rien n'est impossible pour répondre aux besoins de la population et d'avoir tout simplement une école qui tienne la route pour les enfants et des hôpitaux où on puisse se faire soigner dans des conditions décentes et avec des urgences où on ne soit pas obligé d'attendre pendant des heures à l'hôpital de Mantes-la-Jolie.
Alors justement, vous parlez de la santé et des soignants. Vous comptez lancer un plan massif de recrutement des soignants. Voilà, comment faire pour au-delà du recrutement, voilà, il faut aussi qu'il y ait, même chose, beaucoup plus de candidats, peut-être s'intéresser plus à la formation des futurs professionnels de santé.
Écoutez, encore une fois, les viviers existent. Il y a des milliers d'étudiants qui sont aujourd'hui désireux de suivre des études médicales. L'an dernier, il y a eu 30 000 candidats aux épreuves d'accès aux écoles d'infirmiers, aux IFSI. 15 000 ont été pris. La proportion me semble faible. Et à la fin, quand, pour les 15 000 rentrés à l'IFSI, 13 000 ont été, ont reçu le diplôme. Bon, je crois qu'on peut largement augmenter ces chiffres. Il y a aujourd'hui des milliers d'étudiants qui veulent faire médecine. À la fac de Saint-Quentin en Yvelines, il y a un département médecine. Il y a de l'ordre d'à peu près 700 élèves en première année à Saint-Quentin, et simplement 160 en deuxième année. Il y a un barrage qui continue à exister malgré la disparition du numerus clausus. En fait, le système de sélection continue à exister, et la France, le pays, va se retrouver effectivement aujourd'hui sans médecins et avec des déserts médicaux. Et enfin, il y a une chose auquel ils font penser, 15 000 soignants ont été suspendus de leur fonction pour ne pas avoir voulu se faire vacciner. Aujourd'hui, alors que l'épidémie est en train de se résorber, je crois qu'il faut réintégrer immédiatement ces 15 000 soignants, les remettre à leur place, et ils le souhaitent, leur poste de travail, et ainsi désengorger les hôpitaux qui vont connaître un été épouvantable.
Là, on parle des moyens humains dans le domaine de la santé, et concernant les moyens matériels, qu'est-ce qui manque selon vous ?
Les moyens matériels, ce sont à la fin des problèmes de financement. Les moyens aujourd'hui de financement ne sont pas dirigés là où il le faut. Il faut quand même savoir une chose. Parmi les 607 milliards qui ont été donnés aux entreprises, la plupart ont servi à améliorer les marges financières des entreprises et à augmenter les dividendes. L'année 2021, c'est l'année au cours de laquelle les dividendes des entreprises du CAC 40 ont fait un bond extraordinaire et ont atteint le chiffre de 160 milliards donnés aux actionnaires. Bon, je crois que on est dans un système qui marche sur la tête. L'argent public doit être donné pour satisfaire les besoins de la population, pas pour satisfaire les besoins des banques et d'une petite minorité.
Dernière question sur les mobilités. Vous souhaitez l'arrêt de la privatisation de la SNCF et de la régionalisation, et vous êtes pour le maintien des guichets de la ligne J de Mantes à Paris. Comment vous comptez faire ?
Eh bien, il faut supprimer des lois qui ont imposé depuis la précédente cohabitation de M. Jospin entre 1997 et 2002, qui ont imposé une régionalisation de la SNCF. Maintenant, les trains directs de Paris pour Paris, en partance de Mantes, de 12h04 et de 14h sont supprimés. Mais pourquoi ? Qui a pris la décision ? Eh bien, c'est la région Normandie, toute seule, qui aussi appris la décision de supprimer l'arrêt en gare de Mantes-la-Jolie de ces deux directs. Elle a pris la décision toute seule parce que la loi autorise une région à décider toute seule de la fréquence des trains, de leur horaire, de leurs arrêts. Cette loi-là, il faut la supprimer et revenir à un système national, à une entreprise nationale de la SNCF, qui évidemment ne peut pas être une entreprise privée, une entreprise publique appartenant à l'État, afin de satisfaire les besoins de la population, les besoins de tous ceux qui ont besoin de se déplacer pour tout simplement aller à leur travail. Et le rôle de la SNCF ne doit pas être de fournir des dividendes à ses actionnaires.
Merci Jack Lefebvre d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à 13h et à 18h30. Vous pourrez également la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. Demain, nous interrogerons Thierry Gonod, candidat de la lutte ouvrière, et Bernard Kosoko, candidat sans étiquette. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.